Jésus se leva bien avant l'aube, il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Plusieurs d'entre vous, ce matin, se sont levés un peu plus tôt, bravant le froid humide et le brouillard de ce matin d'hiver pour venir adorer le Seigneur dans cette église avant la messe. Vous avez ainsi imité Jésus. Jésus est le modèle de notre vie. Nous n'allons pas tous mourir sur une croix, peut-être même personne d'entre nous, mais nous avons tous à porter notre croix. Et c'est Jésus qui le dit, donc s'il le dit, c'est que c'est vrai. Et nous avons à l'imiter, à l'écouter, écouter sa parole, qui est la lampe de nos pas, et imiter les actes de Jésus. Ainsi, quand Jésus se lève bien avant l'aube pour aller prier dans un endroit désert, et hélas, nos églises, même le dimanche, sont parfois des endroits déserts. Nous sommes dans une ville où il y a de nombreux habitants et cette église ne sera pas beaucoup fréquentée aujourd'hui. Il y a vous qui êtes là. Vous suivez Jésus. Vous venez dans cet endroit où l'on est bien. Ce désert, ce petit désert de cet exil Saint-Exupère, c'est un lieu accueillant, c'est la maison de Dieu. Et là, il priait, nous dit l'Évangile. Qu'est-ce qui fait la prière de Jésus et qui fera notre prière? À la fois de la louange, comme on l'a entendu dans le psaume. Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Notre prière est faite de louange à notre Créateur, notre Sauveur, une louange qui adore Dieu dans sa gloire et qui remercie Dieu, qui devient action de grâce pour ses bienfaits, et y compris les bienfaits qu'on n'a pas vus. Ça s'appelle la foi. Je remercie Dieu pour ce qu'il fait de beau dans ma vie ou dans la vie de mon prochain, alors même que je ne le vois pas. Mais il n'est pas mauvais aussi, dans notre prière, de nous souvenir, d'essayer, c'est un petit effort, de nous souvenir de tel ou tel moment, de ces jours derniers, de ces semaines dernières, de ces années, et parfois de toute notre vie, de ces moments où on a pu voir l'œuvre de Dieu. Dans notre prière, il y a de l'intercession. Et nous ne manquons pas de motifs d'intercession. L'actualité nous envoie tellement d'images terribles. Et dans notre prière, il peut y avoir une supplication, un cri déchirant, il peut même y avoir du désespoir. Ce n'est pas interdit. On a entendu ça dans la bouche de Job, dans la première lecture. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Job a perdu ses enfants, ses bêtes, ses champs. Lui, l'homme riche qui était écouté à l'entrée de la ville, comme il disait, les gens mettaient la main sur leur bouche pour l'écouter. L'homme sage est réduit à un paria. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Quand nous regardons certaines images de maisons détruites en Ukraine, en Israël, en Palestine, à Gaza, je crois qu'il y a 400 000 Israéliens qui ont dû quitter leur maison à cause des bombardements qui viennent du Liban. Et puis, vous voyez ce qui s'est passé, des dizaines et des dizaines de milliers, plus d'un million, je crois, de Gazaouis qui ont quitté leur maison, dont certaines, une grande quantité de maisons totalement détruites ou partiellement détruites. Tout cela, c'est des femmes, des enfants, des hommes, des blessures, des morts, des vies complètement changées. Il y a de quoi dire, mes yeux ne verront plus le bonheur, pour certains. Ben oui, quand quelqu'un est mort, on ne peut pas revenir en arrière. Et ça, ce n'est pas seulement sur ces lieux de guerre, c'est aussi pour nous. Je ne te reverrai plus, toi l'amour de ma vie, toi mon enfant chéri, toi ma mère, toi mon père. Vous voyez, mes yeux ne verront plus ce bonheur-là. Et j'ai bien aimé, en lisant la toute première oraison que l'on fait après le Gloria, le dimanche, que fait le prêtre, on dit que dans la grâce de Dieu se trouve notre unique espérance. Il y a quelques années encore, avant que l'on s'efforce de faire des traductions plus fidèles à l'édition latine, à l'édition originale de ces prières, on disait qu'en Dieu se trouvait notre espoir. Oui, certes, en Dieu se trouve notre espoir. Mais il est plus juste de l'avoir traduit, comme ça a été fait, comme je vous l'ai lu ce matin, en Dieu, en toi, en ta grâce, Seigneur, c'est-à-dire en ta, le don gratuit que tu nous fais, se trouve notre espérance. On peut avoir perdu certains espoirs, parce qu'il faut être réaliste. Certains événements humains font qu'on est passé dans un autre monde, on ne peut plus revenir en arrière. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Mais on garde l'espérance, voyez. Pas de faux espoirs, nous sommes réalistes, mais une grande espérance. J'écoutais l'autre jour un récit terrible, je vais essayer de le dire voilà, de manière un peu discrète, mais une jeune femme qui sort de ses études de médecine, qui fait un stage, enfin qui est encore dans ses études de médecine, qui fait un stage, et elle se trouve dans un centre où l'on termine les grossesses. Vous voyez, je ne m'étends pas trop dessus, mais quand même, c'est désespérant d'entendre cela. Et comme la loi l'autorise, c'est jusqu'à 9 mois. La France autorise jusqu'à 9 mois pour les enfants trisomiques, pour des enfants soi-disant atteints de handicap insurmontable. Et alors là, il ne s'agit pas de juger la détresse de certaines mères. Hein. Si on les aidait avant de les juger, probablement qu'il y aurait beaucoup plus de bonnes nouvelles que de mauvaises nouvelles. Et donc, on procède à cet acte. Seulement, l'enfant qui est sorti est vivant. Drame. Drame. Tout le monde est tétanisé. Mais arrive tranquillement la maîtresse, je ne sais plus quel est le terme, mais l'infirmière-chef, oui, c'est ça, qui prend une piqûre et pfft. Vous imaginez, il y a eu un rapport, de, je crois, européen pour ces... Parce que ça, ce n'est pas autorisé par la loi, mais c'est fait. La loi ne l'autorise pas, mais c'est fait. Il y a eu un rapport européen sur ces infanticides qui sont la conséquence de nos lois. C'est une conséquence. On ne va pas dire que c'est inévitable, mais dans la pratique, c'est inévitable. Donc la loi entraîne des entorses à la loi qui s'appellent tout simplement des crimes. Eh bien, il y a de quoi désespérer, surtout quand on vote pour qu'en plus ce soit inscrit dans la Constitution. Vous voyez, il y a de quoi désespérer, mais nous ne désespérerons pas. On n'aura pas beaucoup d'espoir humainement. 9 enfants sur 10 trisomiques sont éliminés. C'est peut-être même 99%. Il n'y a quasiment plus d'enfants français à adopter. Moi, j'ai des amis qui ont voulu adopter, vous en connaissez probablement dans votre entourage, qui ont voulu adopter des enfants, il n'y en a plus. Ben oui. Mais il y avait une petite fille trisomique qui était née à Bordeaux. On lui a dit, mais voilà, il y a cet enfant. Ils l'ont adopté joyeusement. Pas magnifique, ça ? C'est ça, être chrétien. Au moins, elle a échappé au sort des autres. Et en plus, elle a trouvé un foyer courageux, parce que cela veut dire beaucoup de... une vie transformée. Après plusieurs garçons, la petite fille qui arrive. Mais voilà, c'est cela l'espérance. C'est-à-dire de mettre de l'espérance là où il n'y a plus d'espoir, de mettre de l'amour, un amour inconditionnel pour telle ou telle personne. Et donc notre prière de ce matin, elle est faite de joie, d'action, de remerciement, de prière, d'intercession, mais aussi de supplication et de cris désespérés vers Dieu. En ta grâce, Seigneur, se trouve notre unique espérance. C'est ce qui est arrivé pour la belle-mère de Simon. Si on étudie l'Évangile, il est très probable qu'elle soit veuve, puisque son gendre a quitté son village de Bethsaïde avec son frère André, donc Simon et André, pour prendre la place du beau-père de Simon, reprendre l'affaire de pêche, et il y a de fortes chances que la femme de Simon-Pierre soit morte aussi. Donc cette, puisqu'on n'en entend jamais parler, par contre, on entend parler d'un enfant dans cette maison, donc la tradition dit que c'est Pétronille, la fille de Saint-Pierre, Pétronille, première patronne de la France avant la Vierge Marie. France, fille aînée de l'Église, et qui a pour patronne la fille de Saint-Pierre. Et donc, la belle-mère de Simon ne verra plus le bonheur avec son mari, ne verra plus le bonheur avec sa fille, et arrive un homme nommé Jésus, là, qui descend des collines de Nazareth, et au lieu de lui apporter le bonheur, il lui enlève son gendre. Et ils partent évangéliser dans les synagogues de Galilée, autour du lac. Il reste des belles ruines de ces synagogues, c'est magnifique. Elle a de quoi être malade, d'ailleurs elle tombe malade. Aussitôt on parle à Jésus de la malade. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Parfois, ce sont même des motifs religieux qui font que l'on est malade. Vous voyez, c'est curieux. Jésus pourrait être, c'est une hypothèse, mais ça arrive. Telle mère, tel père, ah, je vais vous prendre un exemple très concret. Une de mes tantes, je l'ai entendue de mes oreilles, de mes tantes qui nous faisaient jouer l'été quand j'étais petit, avec sa cohorte de neveux et nièces, elle disait « Je n'ai qu'une seule fille et cette fille ne me donnera pas d'enfant parce qu'elle est devenue religieuse dans l'Institut Notre-Dame de Vie. » Voyez, donc pour des motifs religieux, je peux tomber malade. « Ma seule fille ne me donnera pas de petits-enfants. » Alors son fils lui en a donné. Mais cette fille en question, ma cousine, elle est devenue enseignante, puis directrice d'école du côté de Marseille, Aix-en-Provence, par là-bas. Donc elle a une autre forme de postérité. Peut-être un désespoir pour sa maman. Mais quelle espérance pour tant et tant d'autres enfants et d'autres familles que d'être aimé gratuitement par quelqu'un qui suit le Christ et qui ainsi se rend capable d'une postérité qu'aucune femme ne peut avoir naturellement. Voilà le mystère donc du désespoir et de l'espérance. Donc nous acceptons dans notre vie certaines situations terribles et nous croyons que le Christ, par sa croix, par ses paroles, par ses sacrements, peut guérir nos blessures. C'est ce que l'on a entendu aussi dans le psaume, il soigne leurs blessures. Et lorsqu'on a été soi-même guéri de plusieurs blessures, pas de toutes, ça sera au ciel, on peut aller évangéliser et, comme le dit saint Paul, dire « malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». Hier, le père Pierre, avec plusieurs membres de la communauté de l'Emmanuel, était, je crois, sur le marché hier matin, sur le marché de Castelginest pour annoncer le Christ. Eh oui, on a envie d'annoncer si soi-même on a conscience, on a rencontré Jésus qui guérit les cœurs brisés, soigne les blessures, comme on l'a entendu dans le psaume. Voilà un beau, bel enseignement qui nous est donné par les lectures de ce jour. Puissions-nous le méditer et surtout le mettre en pratique, aidé par les sacrements, aidé par cette Eucharistie qui va nous nourrir après la parole que nous avons entendue. Amen.